Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Das ist in St. Peterhaus.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, si vous végétez sur votre canapé, ne bougez pas, nous parlons série télé au féminin ou comment cette année, particulièrement, le mouvement MeToo a imprimé sa marque dans les productions. Les personnages féminins sont les têtes d'affiche, les thèmes, ceux du viol, ceux du consentement sont partout. Le regard sur ces questions a peut-être aussi changé de focale. On en parle en tout cas avec notre première invitée. Le bruit du monde est à Cuba, qui rapatrie ses médecins en poste dans toute l'Amérique du Sud. Il les rapatrie par milliers depuis que le continent Amérique du Sud vire à droite. 18h50, le cinéma en VO et Eva Bétan avec un film chinois très noir, mais aussi les séances de rattrapage indispensables du cinéma étranger que vous auriez pu rater cette année. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. On est en Israël ce soir avec Jean-Marc. Les primaires du Likoud, c'est demain. Netanyahou a presque gagné d'avance, mais pas tout. Et vous comprendrez pourquoi. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Charlotte Blum.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les séries, vous officiez notamment pour OCS. Merci de venir un 25 décembre.
Avec plaisir.
Charlotte Blum, on dit souvent aujourd'hui que seules les séries, plus que le cinéma, savent anticiper les mouvements sociaux, deviennent pour certains un vrai outil d'éducation, un outil d'éducation morale et politique à certains égards. Ça a été particulièrement vrai cette année, avec une foison de ce qu'on appellera des séries post-MeToo, le temps que tout ça se mette en route, en quelque sorte, où la représentation féminine et féministe est peut-être en train de changer. En tout cas, les stéréotypes qui avaient la vie dure sont en train de se bouger en ce moment. La focale, je le disais, change. On appelle ça le female gaze, dans un très mauvais français, c'est-à-dire regarder les choses par le regard des femmes et pas celui des hommes. Est-ce qu'on dit vraiment que c'est une année tournante, Charlotte Blum, ou pas?
On va dire que c'est une seconde année tournante. C'était déjà l'année précédente avec des séries comme Big Little Lies. On avait amorcé l'affaire.
Mais allez-y.
Mais c'est normal. Je crois que ce soit plutôt la télévision, mais c'est un vieux mot maintenant. Ouais. La série qui réagisse à la société, puisque c'est un système de fabrication qui est beaucoup plus rapide.
Mais c'est le temps court qui joue à ça, bien sûr.
Exactement. On peut parfois voir, notamment dans la comédie, des épisodes qui parlent d'un truc d'il y a deux semaines. Mm-hmm. Donc évidemment, ça va plus vite.
Une meilleure prise dans l'air du temps, ça veut dire aussi que c'est ce qu'on attend également, peut-être, des séries. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en faire une qui serait complètement en dehors de tous ces thèmes-là, selon vous ?
Bah, on en fait encore, hein. C'est un peu le gap. Pour moi, c'est un peu le dernier gap qu'on doit traverser aujourd'hui. C'est la différence entre les séries qu'on nous raconte et les personnages qu'on nous raconte sur les networks et les séries et les personnages qu'on nous raconte sur le câble ou sur les plateformes. Parce que quand on parle du mouvement post-MeToo, en réalité, il est surtout sur les Netflix, sur les HBO, sur Apple, aujourd'hui avec The Morning Show. Enfin, c'est pas partout.
J'allais vous le dire aussi. Alors, je comptais finir avec ça, mais allons-y, c'est pas grave.
On est dans le désordre.
On est dans le désordre. Toutes les séries dont on va parler, certaines que vous avez vues, d'autres que certains n'ont pas vues et moi non plus d'ailleurs, mais dont on a pu entendre parler, on les trouve effectivement sur le câble aux États-Unis ou ailleurs, on les trouve effectivement sur désormais les Netflix, les Amazon Prime, etc. Tous ces stéréotypes-là sont à peine bougés, on va dire, dans les séries dites de network, je pense aux grandes séries policières, les Law and Order, etc., ou tous leurs spin-offs. Aujourd'hui, tout ça n'a pas beaucoup changé, en fait, dans les grandes lignes.
Bah non, mais c'est des grandes entreprises qui sont gérées beaucoup par des hommes, et par des hommes assez âgés. Enfin, on parle souvent en rigolant, on se dit on va arriver à un moment où tous ces vieux vont sortir et on va avoir les nouvelles générations, ces mêmes générations qui travaillent sur le câble, par exemple, qui vont pouvoir commencer à s'exprimer. Après, les enjeux ne sont pas les mêmes. Hein. Mmh. Sur le câble, on paye un abonnement parce qu'on veut quelque chose de différent. Et là, sur les networks, on en est encore au moment où on vend de la pub au milieu des épisodes. Donc, il y a une prise de risque qui est moindre. Et pour moi, c'est par le network qu'on va finir ce combat-là. C'est par des séries toutes simples comme This Is Us, par exemple. Une grande série populaire dans laquelle il y a une parité vraie entre les hommes et les femmes.
Alors justement, vous avez un peu mangé au début, vous n'avez parlé de cette série qui en est à sa troisième saison. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir voir évoluer ces séries-là et voir comment, au fil de l'actualité et du temps politique, elles évoluent. Voici ce dont on parlait ensemble. Want it. Did you want it back? Tu en as choisi le générique. générique et pas un extrait, c'est parce que le générique est génial.
Ouais, ça fait danser.
Exactement, c'est formidable. On est pile dans, on est dans deux choses à la fois. On est dans la violence physique vis-à-vis des femmes. On est dans la violence symbolique aussi, tout ce qu'elles subissent. Et tous les personnages principaux sont des femmes là-dedans. Il y a eu une sorte de révolution Little Big Lies, au point même que Meryl Streep est entrée dans la troisième saison. Preuve qu'il faut rentrer dans ce genre de thématique et de série quand on est une Meryl Streep, en fait.
Bah, quand on est une Meryl Streep ou quand on est une actrice ou un acteur de cinéma, ils viennent tous aujourd'hui à la télé ou dans les séries parce qu'on leur propose des rôles différents. Le cas de Big Little Lies, pour moi, il est très particulier et très symbolique, notamment parce que la première saison, elle a été réalisée, menée, on va dire, par un homme, par Jean-Marc Vallée, qui a su, malgré tout, donner leur place aux femmes, à ces actrices. Effectivement, on a un personnage, le personnage de Nicole Kidman, qui est une femme battue. On a de la violence, on les voit se sortir de tout ça. On a un truc, moi, que je trouve très, très intéressant et très important, et qui est aussi une façon d'être moderne, c'est une sororité. On a des femmes qui se sont soutenues et pas des femmes qui se sont rabaissées. On n'est plus dans les petits cancans, dans les petites bastons entre femmes. Je pense qu'on a compris, et devant l'écran et derrière, qu'on est là les unes pour les autres.
Et moi, ce que je me demande toujours dans ce genre de série, c'est précisément trois saisons, donc une un peu avant MeToo, l'autre au milieu, deux avant MeToo.
Deux saisons.
C'est ça. Ah, c'était que la deuxième. Ben je croyais que c'était la troisième.
Non, c'est qu'ils ont mis du temps à nous la pondre.
J'étais sûre que c'était la troisième. Parce que je me demandais, en fait, si l'évolution, y compris d'une série comme ça, serait la même si on n'était pas tombé pile au milieu de MeToo, en fait. Si, d'une manière ou d'une autre, on change le scénario, on change la perspective, au moins, de ce qu'on veut montrer.
Bah, déjà, ce qui est clair, c'est que la saison 1 suivait une histoire qui avait été écrite auparavant, puisque c'était l'adaptation d'un roman. La saison 2, c'est une suite qui a été créée par des scénaristes. Mmh. Voilà, on est sur une réappropriation
c'est
de l'histoire.
C'est pareil pour Handmaid's Tale, d'ailleurs.
Exactement, même deux saisons supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est très particulier Handmaid's Tale, puisque là, on a l'autrice Margaret Atwood du roman, qui a un peu bouclé la boucle avec Les Testaments, qui est sorti il y a quelques mois, puisqu'elle reprend elle-même les personnages qu'on a fait évoluer sans elle. Donc, en fait, on a l'impression qu'on a des formes artistiques qui cèdent, qui s'attirent les unes vers les autres pour essayer de faire avancer les choses le plus vite et le plus loin possible.
L'exemple le plus emblématique, à mon sens en tout cas le plus fort de cette année, vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, c'est ceci.
Viens par là. Comment tu te sens ?
Ça va.
T'aurais parfaitement le droit de te sentir mal, tu sais.
Oui, je sais. Là, je dois m'occuper de mon déménagement. Ty m'a prêté des caisses, mais je dois lui rendre cet après-midi.
Ça s'appelle Unbelievable, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur Netflix, et c'est la plus emblématique parce qu'on parle d'une jeune femme, elle est marginale, elle est instable, anti-héros total, elle est violée, personne ne la croit, elle se débat dans les méandres à la fois de tout ce poids social qui est autour d'elle, et aussi les méandres policiers, judiciaires, etc. On est pile dedans, là en fait, on est dans le cru, on est dans le net, et on est dans le neuf aussi par rapport à ce qu'on a déjà fait.
Alors en fait, c'est marrant parce qu'elle s'appelle Unbelievable, qui veut dire incroyable. Et moi, je suis choquée de m'être dit c'est incroyable que cette série existe. Parce que enfin, on est dans le dur. C'est-à-dire qu'on est dans des viols en série, on est dans des femmes qu'on croit pas, on est dans le traitement de la parole de ces victimes qui diffère suivant si le flic est un homme ou une femme ou un duo de femmes. En fait, on nous raconte là le plus glauque de ce que vivent les femmes et qu'on a essayé pendant si longtemps de planquer, de cacher, de taire. Et d'ailleurs, l'héroïne de cette série, la première victime, enfin celle qui va être notre guide dans cette histoire, on ne la croit pas, à tel point qu'elle finit par plus se croire elle-même, tellement on la nie, tellement elle n'a plus envie d'exister. Et là, on est en train de prendre des femmes par la main et de les sortir d'un gouffre et de leur dire « tu existes ». La série, pour moi, elle nous dit « tu existes ». Qui que tu sois, tu existes, quoi que t'aies traversé, tu existes. Et voilà, c'est pour ça que c'est important que ces personnages vivent.
Et que cette série existe aussi, est-ce qu'elle aurait pu exister il y a encore 2 ans, selon vous? Est-ce qu'on aurait pu penser, c'est même pas le thème, est-ce qu'on aurait pu penser que ça allait intéresser, en fait, une série comme ça il y a encore 2 ans?
Je sais pas si on se demande si elle va intéresser. Je pense qu'on se demande est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. Et là, en l'occurrence, elle est nécessaire. Mais clairement, vous avez raison, il y a 2 ans, à part peut-être les Anglais, qui sont un peu plus forts que nous sur les thématiques sociales, qui ont moins peur, qui font aussi des séries plus courtes avec des économies différentes, ces thématiques-là, elles n'étaient pas traitées, elles étaient ignorées, voire on espérait que personne n'ait envie de les regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on a envie de les regarder, ça veut dire qu'on a besoin de les voir et on a besoin de les partager.
Et on sort de là, on n'est pas pareil quand on en sort. Effectivement, on se prend une claque en la regardant. Il y a une autre représentation, cette année, un peu la précédente, à la fois du viol, du consentement, de la sexualité. On n'est pas obligé de le faire de manière extrêmement tragique, comme Unbelievable. C'est ceci, écoutez.
Je comprends pas pourquoi Lizzie veut pas aller au bal avec moi. J'ai essayé tous les gestes romantiques possibles et imaginables. T'as essayé de lui demander ? C'est la première chose que j'ai faite. Elle a dit qu'elle était flattée, mais qu'elle sortait avec personne.
Je vois.
Mais les choses peuvent changer. Et elle était flattée.
Je sais que c'est dur, mais tu lui as demandé et elle t'a dit non. Alors, je crois que t'as eu ta réponse.
Sex Education avec Gillian Anderson, c'est rigolo parce qu'on cherche à savoir ce que c'est, parce que c'est en France.
Oui.
Quelle bande de snobs nous faisons, vous et moi, Charlotte Bloom. Là aussi, le thème là, très clair, très frappant du consentement, c'est une série qui est faite de manière assez... c'est très sympa à regarder, c'est à certains égards assez léger, en fait. Mais les thèmes, encore une fois, là, sont dans le mille et sont tout neufs aussi.
Sont tout neufs et surtout, on est sur des ados. C'est-à-dire que là, on éduque, en fait. Le titre Sex Education, il n'est pas par hasard, il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que là-dessus qu'on éduque. On éduque, c'est de l'éducation civique, hein, quasiment, Sex Education. Effectivement, il y a la question du consentement, il y a la question de l'homosexualité, il y a la question de l'avortement aussi, qui est une thématique qu'on a beaucoup traitée cette année et qu'on traite de mieux en mieux, de manière moins culpabilisante. Enfin, on apprend à parler de toutes ces thématiques-là. Et effectivement, ce personnage de Gillian Anderson, qui finalement va être la plus folle de la série, beaucoup moins responsable que les adolescents. On redistribue un peu les cartes avec ces séries-là. C'est ce qu'on a fait aussi avec Euphoria, d'une manière un peu plus trash sur HBO. Mais c'est hyper important de traiter ces thématiques avec des adolescents. Parce que les adolescents, ils sont comme nous, adultes. Ils ont besoin de se voir, ils ont besoin d'être représentés et ils ont besoin d'apprendre qu'on peut parler de tout ça.
Et alors, en même temps, c'est intéressant parce que vous parlez des ados. Il y a eu une série précédente qui avait fait beaucoup de bruit qui s'appelle 13 Reasons Why, où on a une adolescente, et là, je ne gâche rien parce que c'est comme ça que ça commence, dont on sait qu'elle s'est suicidée et on revient en arrière sur le harcèlement qu'elle a subi et aussi, là aussi, des thèmes de consentement. Donc, on y était, en fait. On a l'impression, ça, c'est une série pré-MeToo, si je peux le dire comme ça. On a l'impression qu'on y était. On était donc à deux doigts. On les avait touchés, ces problèmes-là. Ils ont explosé peut-être de manière différente aujourd'hui. En tout cas, même 13 Reasons Why, est-ce qu'on ne regarde pas avec un œil très différent?
Si, alors pour moi le problème de 13 Reasons Why, après je cherche les problèmes, hein.
C'est
un peu mon métier de faire ça,
vous en prie.
Mais c'est qu'on en a fait une forme de, un peu une sorte de polar. Et moi j'ai du mal, mais c'est ce qu'on a fait avec The Affair aussi, j'ai du mal quand on a des thématiques comme ça très simples et très importantes, l'idée qu'on demande à des scénaristes de rajouter le petit élément de genre qui va faire qu'on va digérer la série. On a vu avec Unbelievable qui est un polar, en fait on a inversé, on a pris un genre et on a montré que ce qui était important c'était pas le polar, c'était l'humain.
Mais est-ce qu'une série comme 13 Reasons Why, encore une fois avec des ados, mais peut-être d'autres, est-ce qu'elles ont labouré le terrain un peu pour qu'on puisse aujourd'hui avoir un Unbelievable que...
Bien sûr.
On est un certain nombre à avoir regardé.
Bien sûr. Et maintenant, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un 13 Reasons Why sur un network, sur une chaîne hertzienne, qu'on montre à toutes les familles et pas seulement aux familles qui sont abonnées à Netflix, à Apple, à Amazon, à HBO. Enfin, faut qu'on parle à tous les ados. Pas seulement aux ados de l'élite, j'ai envie de dire. Là, il faut qu'on devienne populaire.
Alors, il y a autre chose que je voudrais vous faire entendre. Écoutez, je crois qu'on l'a choisi en anglais cette fois-ci, pour vous faire plaisir, Charlotte Bloom. Bon, allons-y.
I sometimes worry that I wouldn't be such a feminist if I had bigger tits.
Voilà, c'est Fleabag. Alors, ça existe aussi en français, c'est Mouche avec Camille Cotin. Et alors, celle-là, la phrase, on va la traduire, ça dit « Je serais peut-être pas aussi féministe si j'avais eu le plus gros téton ». En voilà une autre aussi, représentation féministe, très différente, très trash, qui a peur de rien, qui y va. Au fond, je caricature un petit peu, je le fais sciemment, il n'y avait que les hommes qui se comportaient comme ça dans les séries précédentes à la télé, non ?
Mais c'est exactement ce qu'on a dit quand Fleabag est sorti.
Ouais.
Quand on a eu la saison 1 de Fleabag, tout le monde disait « c'est une femme qui se comporte comme un homme ». Bah non, c'est une femme, quoi. C'est juste que vous ne nous avez pas beaucoup écouté et vous ne nous avez pas beaucoup respecté pendant toutes ces années. Et là, on ose les femmes imparfaites, mais c'est pas des femmes imparfaites, c'est des femmes normales, en fait.
Mais imparfaites, c'est intéressant ce que vous dites, parce que imparfaites aussi physiquement, pour certaines, c'est-à-dire
moi, je la trouve assez parfaite.
Alors oui, alors ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans cette espèce de représentation où elles sont toutes sublimes, elles ont des vêtements qui sont toutes hyper bien taillés. Je pense que l'une des précurseurs là-dedans, c'était, comment s'appelle-t-elle?
Girls.
Voilà, merci, on y est. Qui ose montrer aussi des corps qui sont pas forcément beaux, en l'occurrence le sien d'ailleurs, qui le met nu, etc. Elle est jamais bien coiffée. Ça aussi, peut-être, ça change et c'est important de le mettre aujourd'hui dans les séries telles qu'elles sont faites.
Ah, mais ça, c'est une étape cruciale. Et c'est l'étape qui va pousser l'identification jusqu'au bout. Pour moi, c'est le seul défaut de Big Little Lies, en fait. C'est que toutes ces femmes, elles sont quand même très belles, très riches, très bien coiffées. C'est ça. Bon, elles sont mères de famille. Mais effectivement, il faut montrer toutes les femmes et il faut montrer tous les hommes. Et
quand elles travaillent, elles ont arrêté de travailler d'ailleurs pour élever leurs enfants, ce qui est assez intéressant dans Big Little Lies. Oui, certaines regrettent.
Oui, Céleste, ouais. Nicole Kidman, ouais, ouais. Vraiment, elle n'a plus du tout envie de rester à la maison. Mais vous avez raison, et c'est une des prochaines étapes, il faut montrer tous les corps.
Alors, je voudrais vous faire écouter aussi autre chose, parce qu'on disait montrer tous les corps, mais montrer peut-être aussi d'autres types d'héroïnes. Peut-être qu'on n'y est pas encore quand on les regarde. Pour la plupart, elles sont blanches, elles sont hétérosexuelles, elles sont, comme vous le disiez, plutôt jolies. Voici une antithèse totale de ça.
Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot.
Mother, what do we take?
Everything.
The category is...
Alors ça c'est génial, on l'a très peu vu en France encore, ça s'appelle Pose. Les héroïnes elles sont trans, elles sont noires, elles sont latino. Et encore une fois, on avance doucement, mais on sort du stéréotype hétéronormé en fait, pour dire les choses clairement.
Oui, et c'est souvent la même personne qui nous aide à sortir de tout ça, c'est Ryan Murphy, qui l'avait déjà fait avec Glee, qui est le... Une des personnes qui fait qu'on a des représentations variées aujourd'hui à la télé, effectivement des représentations raciales, des représentations sexuelles, et on avance. Maintenant, il faudrait qu'on arrête de toujours demander à la même personne de faire le boulot, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et là, effectivement, en plus, c'est un cast trans avec des acteurs et des actrices trans. C'est important aussi qu'on ne prenne pas des acteurs, des actrices cisgenres pour jouer des trans. C'était ce qui avait été un peu reproché à Transparente à l'époque, avec le casting de Jeffrey Tambor, qui malgré tout était excellent dans son rôle, même si
là,
depuis...
Après, il s'est passé des choses, voilà, passé des choses par le détour de Me Too avec cet acteur aussi.
Mais c'est vrai qu'en fait, la seule façon de que le monde des séries et que le monde, notre monde se rencontre, c'est que tout le monde existe partout.
Tiens, il y en a une autre que je voudrais vous faire écouter. C'est pas de la saison dernière, justement, c'est plus... Ça date de plus avant, mais vous allez voir, on en reparlera en 2020. On est parti.
Je ne pense pas que je peux faire ça. Il semble straight, anyway.
Micah, il est gay. J'ai demandé.
Quand je suis élected, je serai la première lesbienne maire de Los Angeles.
Elle est inspirante. Elle m'inspire chaque jour. Je
pense que nous avons une vraie opportunité de faire un impact.
C'est bien parce qu'au fil des extraits, cette pauvre Charlotte Bloom cherche de quelle série on parle. Et moi, je ne lui dis pas parce que je suis méchante. Elle World qui revient. Là aussi, ça a été une série
fondamentale.
Exactement. Et fondatrice, peut-être, en fait, qu'on a un peu oublié. Si elle revient, encore une fois, selon vous, c'est une question de contexte également? Ou est-ce qu'il y a de ça ou pas?
Alors, je pense que ma génération ne l'a pas oublié. Elleworld, ça a été une vraie révolution, ça a été une libération absolue de voir ces femmes.
On parle que de lesbiennes en fait.
On parle que de lesbiennes, mais c'est juste des femmes, des héroïnes avec les mêmes problèmes que tout le monde. Enfin, moi, je pense que c'est une série qui marquera, et je trouve que c'est un peu dommage justement ce retour de The Elleworld qui est plus léger. Le mot solaire, c'est le premier mot qui me vient.
Vous l'avez déjà
vu, j'ai vu des, un petit peu. Ouais. Bah bon, il faut bien qu'on ait quelques privilèges, mais. Je suis pas sûre que le retour de Elleworld aujourd'hui rend hommage à la folie qu'a été Elleworld à l'époque.
Du coup, c'est un retour opportuniste, c'est ça en fait?
Non, enfin, opportuniste, je pourrais jamais taxer d'opportuniste une série qui montre des minorités de manière élégante, intelligente et tout. C'est pas opportuniste. C'est plus simple de sortir The Elleworld aujourd'hui que ça l'a été de le sortir il y a 15 ans. Où il a fallu vraiment défoncer les portes pour que cette série ait le droit d'exister. Aujourd'hui, c'est légèrement plus simple.
Donc, on aurait envie qu'elle soit plus politique, en gros, quand je vous entends cette saison-là.
Oui, là, on aimerait qu'il y ait Marianne Murphy pas loin.
Voilà. Tiens, je vais vous faire écouter ça pour la bonne bouche. Ça a combien d'années? Pouf, allez savoir.
Il était une fois trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police.
Et pourquoi j'ai envie de finir avec ça, Charlotte Bloom, quand même? C'est au moins pour qu'on se rende compte qu'on a fait des progrès considérables, au fond. Parce que la première série un peu féministe, c'était celle-là, puisqu'il y avait trois femmes. Pour le reste, elles étaient quand même en maillot de bain du début jusqu'à la fin.
Ouais, elle était juste féministe parce qu'il y avait trois femmes.
Exactement. Mais alors, je vous souviens,
elle passait même pas
le Bechdel. La blague favorite, c'était de se dire, elles sont toujours en maillot de bain, d'où sortent-elles leurs flingues, quand même? Parce qu'elles en avaient...
Voilà. C'est grand maillot de bain.
Exactement, avec le cher Bosley. En tout cas, voilà, preuve qu'on a fait du chemin, qu'on en fera sûrement cette année 2020 et que l'année 2019, en tout cas, aura été importante pour ça. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans
le monde. Merci à vous.
Charlotte Bloom, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Sintès, sur France Inter.
la suite du bruit du monde, absolument, c'est le bruit du monde d'un jour dans le monde. Ça se passe à Cuba, qui rapatrie ses médecins par milliers, des médecins envoyés en mission dans toute l'Amérique du Sud. Et le continent est en train de changer, il vire à droite, ses missions sont de plus en plus critiquées. Le cinéma en VO, c'est Eva Béton qui a choisi un film chinois, très noir, ce soir, sorti aujourd'hui, mais vous suggère aussi quelques séances de rattrapage avant d'attaquer la saison 2020 du cinéma étranger. Le monde à l'envers, c'est vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Shalom, salam.
En Israël, Jean-Marc, précisément, primaire à droite demain, celle du Likoud, un Netanyahou qui doit s'habituer au goût de la contestation, en gros.
Il va jouer à qui gagne perd. C'est un nouveau jeu, je vous explique tout à l'heure.
Il faudra nous expliquer ça dans l'ordre. Ne bougez pas, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Détroit aux États-Unis avec Lizzo. Jérôme, c'est le titre, c'est dans la playlist d'Inter.
Shut up. Jerome, take your ass home and come back when you're grown.
Ce soir est à Cuba qui rapatrie ses médecins par milliers. L'émission médicale à l'étranger des médecins cubains représentait pour La Havane la première entrée de devises dans le pays, représentait parce que désormais, et depuis que le continent sud-américain vire à droite, après beaucoup d'élections, ses missions à l'étranger font l'objet de nombreuses critiques. Cuba se défend en avançant son principe de solidarité avec les plus démunis. C'est Domitille Piron à La Havane qui nous raconte cette histoire.
Dans le hall de l'aéroport de La Havane, la sono criante accueille en héros les médecins. Ils sont 200 ce jour-ci, parmi les 725 professionnels de santé rapatriés de Bolivie, après avoir été accusés de financer les protestations en faveur d'Evo Morales et d'attiser les tensions. John Landa regrette d'être parti subitement de l'hôpital de la province amazonienne de Bolivie où il exerçait.
Je me sens triste d'avoir quitté la Bolivie de cette manière, parce que nous étions là-bas pour sauver des vies et apporter la santé. Nous ne sommes rien de ce qui s'est dit sur nous. Nous n'étions pas en Bolivie pour faire de la politique, ni rien de tout ça.
Chaque retour de médecins rapatriés est une fête, mais aussi une défaite pour Cuba. Alors à chaque fois, c'est le ministre de la Santé, José Ángel Portal Miranda, qui les accueille devant les caméras de la presse officielle et étrangère.
Médecins cubains, nous avons toujours été du côté du devoir, même dans les circonstances les plus complexes. Tremblements de terre, ouragans, épidémies terribles comme Ebola, et dans les lieux les plus reculés de la planète, avec une profonde vocation humaniste. Nous sommes fiers du travail que vous avez accompli. Vous avez montré que la révolution pouvait compter sur vous, et vous pouvez toujours compter sur la révolution.
Que viva Cuba!
En un an, Cuba a rapatrié 9640 médecins. Outre la Bolivie, le Brésil de Jair Bolsonaro les accusait de fomenter des guérillas. L'Équateur de Lénine Moreno n'acceptait plus de payer le salaire des médecins à l'État cubain, qui en reversait seulement 20% à ses ressortissants. Un salaire tronqué pour les médecins en mission à l'étranger, mais toujours plus élevé que le revenu cubain. Marta Alvarez Saez, de retour de sa mission inachevée à Guayaquil en Équateur, touchait $700. À La Havane, elle reprendra son poste à l'hôpital pour $80 par mois. Dans sa petite maison au mur du salon décrépit, Marta, comme elle le dit, passe des journées difficiles. Elle ne s'attendait pas à revenir si rapidement chez elle, à Guanabacoa, dans la périphérie de La Havane. Elle a certes retrouvé ses deux enfants d'une vingtaine d'années, mais laissé derrière elle des milliers de patients.
Là-bas, je prenais en charge beaucoup de patients atteints du tétanos, une maladie éradiquée à Cuba. Il y avait aussi des cas de paludisme, de dengue et d'autres maladies transmissibles comme le sida. La communauté avait une grande empathie envers nous, les médecins cubains, donc nous nous sentions bien. La sortie a été brusque et avec des larmes, mais c'est à cause de la politique, non ? Et au détriment de la santé de la population.
La cinquantenaire à la peau très noire et aux yeux doux avait déjà réalisé 5 missions à l'étranger en tant qu'épidémiologiste. Elle faisait partie de la première brigade envoyée au Venezuela dans les années 90, une période économique difficile pour Cuba qui impulsait ce programme d'échange médical. Fidel Castro et Hugo Chavez échangeaient alors des milliers de médecins contre des milliers de barils de pétrole. Un programme d'échange qui représentait jusqu'alors la première entrée de devises dans le pays, $6 milliards en 2018. 29 000 médecins cubains sont présents dans une soixantaine de pays du monde, jusqu'au Qatar, qui paye $10 000 par mois pour chaque professionnel de santé cubain envoyé dans son désert. Après quelques semaines de vacances, Marta, comme tous les médecins rapatriés, reprendra son poste à l'hôpital de Guanabacoa. En attendant, elle est invitée à l'université de Rilon, la plus prestigieuse faculté de médecine de La Havane, pour témoigner devant les futurs médecins.
Ce qui est important dans cet échange, c'est que les étudiants s'inspirent de notre parcours. Ils sont dans la continuité des principes de notre révolution. Donc il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent aider leur pays, mais aussi aider d'autres peuples qui sont dans le besoin.
Apporter des services de santé là où ils font défaut, c'est l'esprit officiel de la politique médicale cubaine. Une politique rapidement mise en place après le triomphe de la révolution. Adina Pérez, qui a réalisé une mission en Haïti, enseigne aujourd'hui dans cette université gratuite pour les Cubains.
Notre faculté est la première école de médecine créée par la Révolution en 1962, fondée par le commandant Fidel Castro. Dès ce moment-là, la première fonction a été la formation, pour compenser le manque de tous les médecins qui avaient fui au début de la Révolution. Dans ces salles de classe, plus de 80 000 étudiants de 91 pays y sont passés.
Une formation massive de médecins également critiquée. Le diplôme cubain n'est pas reconnu partout dans le monde et certains médecins en mission à l'étranger se sont révélés ne pas être qualifiés pour les fonctions pour lesquelles ils étaient embauchés. Mais Cuba bénéficie encore aujourd'hui de sa réputation qui fait venir chaque année des milliers de jeunes étudier la médecine, comme ce Français de Martinique. Paul Hardy regrette que le diplôme qu'il obtiendra dans quelques années ne soit pas reconnu partout.
Pour moi, c'est plus de la politique.
L'étudiant français paye 55 000 dollars pour son diplôme de médecine qu'il obtiendra après 6 ans d'études.
Alors, il est reconnu dans de nombreux pays, je crois que c'est 120 pays ou 130 pays. Par contre, il n'est pas du tout reconnu en France. En France, c'est la croix et la bannière pour entrer. Bien que j'ai appris qu'en Guyane française, ils sont en train de faire des... Parce qu'il y a tellement peu de médecins en Guyane française qu'ils sont en train de faire des... Je crois un partenariat pour faire venir un médecin cubain. Mais ça donne de l'espoir, en fait, de pouvoir peut-être un jour rentrer ici.
Attaqué et critiqué pour son programme d'échange médical, Cuba forme également chaque année des milliers d'étudiants, majoritairement sud-américains et africains, à l'école latino-américaine de médecine, où d'autres bruits du monde, Fabienne, se font entendre.
Et qu'on fait résonner donc ici même, Domitille Piron, merci beaucoup, avec nous depuis Cuba. Le bruit du monde, la suite est au fond de son lit, on l'embrasse, on lui offre un Jimi Hendrix consolateur, Bleeding Hearts, parce que nos cœurs saignent. Allez, bonne soirée à vous. People hear me, people hear me. Do you know what it means to be left alone? Wow, people hear me, people. Do you know what it means to be left alone? All on your own. Well, I ain't had no letter today. Not even a call on my telephone. Voilà, vous dormiez sur le canapé pour digérer, et ben maintenant vous êtes réveillé, tant mieux. Allez, Eva Vétan est là, le cinéma en VO, c'est tout de suite.
France Inter.
Un
jour dans le monde.
Eva, vous avez choisi donc de terminer le cinéma en VO cette année avec un film chinois.
Oui.
Ça s'appelle Le lac aux oies sauvages. C'est signé Diao Yinan.
Oui.
C'est un film noir, dites-vous, avec du mélo à l'intérieur. Et il y a aussi beaucoup de pluie. Tout ça m'a l'air extrêmement festif pour un jour de Noël. Et si j'ai bien compris, il y a une histoire d'usage très particulier de parapluie aussi.
Oui, alors quand vous aurez enlevé ce très vilain bonnet, je vous expliquerai. Mais il y a une scène qui est vraiment étonnante. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne conseille pas cet usage du parapluie. C'est pas festif et c'est du cinéma formidable. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots de présentation de Diao Yinan.
Ben, s'il vous plaît, oui.
Ça tourne, son cinéma tourne beaucoup du crime, de la justice, de la marge. Je voudrais vous citer deux films vachement bien qu'il avait fait précédemment. Train de nuit, qui avait pour une héroïne une huissière de justice qui s'occupait des femmes condamnées à mort. Et Black Hole, qui avait eu l'ours d'or à Berlin. Le film commençait avec le corps démembré d'un homme dans une cité minière.
Ah, voilà. Très bien.
Donc, il est dans le film noir. Mmh. Et nous sommes dans une continuité. Vous avez un truand en fuite, une récompense qui est proposée à qui le dénoncera, des ingrédients de mélo avec une femme fatale. Et bien sûr, c'est des grands classiques, si vous voulez, mais il faut voir ce qu'il en fait. C'est un film d'atmosphère. C'est un film qui est aux trois quarts la nuit, avec la pluie, avec le jeu sur les néons, avec des moments de cinoche formidables comme une réunion de voleurs de moto, avec course-poursuite sous la pluie. Cette femme fatale, c'est une prostituée, mais qui est élégante, qui a la classe, une classe un peu garçon. C'est un film hypnotique qui va jouer sur une forme d'opacité et vous allez vous accrocher pour le suivre. C'est brillant, c'est un exercice de forme. Ça mélange les genres, et pas seulement. Il y a le film noir est un vecteur. Mmh. C'est un vecteur. Il nous montre aussi une Chine, la Chine des provinces, la Chine des marges, la Chine des immeubles de béton inachevés. Il y a aussi une conception qui est très chinoise de la marge, qui est pas tellement comme la nôtre. Jia Zhangke en parlait très bien à propos de son film Les Éternels, qui est une vision qui est la marge porte aussi certaines valeurs. Et vous allez retrouver dans ce film-là un côté qui est très beau, qui est un côté sacrificiel, et l'idée qu'il y a des valeurs qui peuvent être portées par un truand et par une prostituée. Donc voilà, il fait, et c'est pas un hasard, du noir dans la Chine d'aujourd'hui. C'est un vecteur, écoutez-le.
Les films noirs qui sont nés aux États-Unis dans les années 40-50, ils étaient déjà un très bon reflet des tensions sociales qui animaient le pays. Les intellectuels à l'époque s'interrogeaient beaucoup sur toutes ces questions qui sous-tendent le développement du pays. Et en Chine, aujourd'hui, nous assistons à un développement extrêmement rapide de l'économie. Et c'est un développement qui provoque des inégalités sociales, des tensions sociales, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle beaucoup d'affaires très étranges surviennent en Chine, et c'est un très bon terreau pour les films noirs. J'ai cette inquiétude vis-à-vis des valeurs et une dilution des valeurs qui est en cours, mais j'ai aussi voulu montrer ces valeurs traditionnelles confucéennes autour de la morale, des valeurs morales. Il y a aussi tout cet aspect de l'héroïsme. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être voulu montrer à travers ce film.
Et c'est un film inter.
Et c'est très noté, merci beaucoup Eva Béton. Alors quand même, avant qu'on se quitte, quelques films à voir en cette période de vacances, Eva, avec un critère basique, et heureusement d'ailleurs, qui a son importance, Eva.
C'est que les films aient une chance d'être encore dans les salles. Donc on va parler des plus récents. Voilà. Parce que c'est pas comme les livres que vous pouvez acheter à tout moment. Un mélo brésilien superbe, La vie invisible de Ridis Gusmao. Il traite d'un sujet assez rare, qui est la force du lien entre les sœurs. Un film japonais bref, sorti cette semaine, Jésus, un film d'enfance, joli film sur un sujet là aussi peu traité, la force des amitiés enfantines. Je vous rappelle Une vie cachée de Terrence Malick.
Vous aviez adoré.
Le mystère du bien.
Vous y revenez.
Quand, oui, mais bien sûr.
Vous avez
quand, quand un très grand cinéaste japonais filme hors de chez lui, c'est Kore-eda. Kore-eda qui filme une star française, qui filme Catherine Deneuve. Et c'est à la fois de la fiction et une sorte de portrait réel et imaginaire et de ça, ce que peut être une star.
Ça, c'est vraiment en ce moment, ça.
C'est une chose que vous pouvez vraiment trouver. Alors, ce qui est plus ancien, si vous les trouvez, précipitez-vous. Parasite de Bong Joon-ho, coréen, formidable Palme d'Or à Cannes. J'ai vu qu'il existe déjà en DVD.
Et en VOD ?
Oui, c'est ça, DVD-VOD. Le Traître de Bellocchio, pas encore en DVD-VOD, il faut attendre un certain temps. Ad Astra de James Gray, il y a encore peut-être des salles qui le passent. Il sera en DVD le 22 janvier. On voit que même dans l'espace, les problèmes père-fils, c'est toujours pas réglé pour James Gray. Voilà, c'est un tour du monde finalement pas si cher que je vous propose.
Voilà, moi j'attends le 22 janvier parce que Ad Astra, je l'ai raté. Donc vivement le 22 janvier.
Sans le bonnet.
Attendez, vous avez pas vu mes chaussures encore. Allez, le tour du monde, c'est tous les jours. Ici, merci Eva Bétan. Joyeux Noël et à l'année prochaine.
Oui.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est demain que se déroule en Israël la primaire au sein du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Cette première étape vers de nouvelles élections générales qui sont censées se produire en mars prochain.
Début mars. Oui.
Début mars. Demain, Netanyahou va sans doute s'imposer, mais cette victoire cache une défaite et c'est votre monde à l'envers.
Et au sein de l'état-major du Premier ministre israélien, la sérénité est de mise. Demain, la victoire est au rendez-vous. La seule source d'inquiétude, c'est la météo, figurez-vous. Vent, forte pluie annoncée dans les heures qui viennent en Israël. Ça pourrait dissuader certains électeurs de se déplacer. Les heures d'ouverture des bureaux de vote ont donc été étirées au maximum de 8h du matin jusqu'à 11h, 23h le soir. Pourquoi je parle de ce qui apparaît comme un détail ? Ben parce que c'est important, Netanyahou veut une participation forte pour une légitimité renforcée et un succès net. Il a de bonnes raisons d'y croire. D'abord, malgré ses casseroles judiciaires, le Premier ministre israélien peut toujours compter sur un socle solide de militants inconditionnels. C'est un peu comme Trump, finalement, aux États-Unis. Pour eux, leur leader est victime d'un complot, d'une chasse aux sorcières. Il faut le défendre. Ensuite, Netanyahou n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est en campagne. C'est une bête de scène, on le sait. Depuis 2 semaines, il a multiplié les interventions publiques jusqu'à 4 à 5 par jour, du grand meeting jusqu'à la réunion intime dans des domiciles privés. Tout y est passé, toute la gamme. Enfin, il a le soutien des cadres du Likoud, qui est un parti légitimiste. On ne tue pas le chef, ce n'est pas dans les gènes de ce mouvement. L'adversaire de Netanyahou dans cette primaire, Gideon Saar, ne se fait donc pas d'illusions. Il n'a reçu l'appui que de 5 parlementaires du parti. S'il obtient 30% des voix, ça sera déjà pas mal. Donc demain, Netanyahou va probablement gagner.
Très bien. Alors, dites-nous pourquoi vous y voyez quand même une défaite ?
Mais parce que, tout simplement, un tabou est tombé. Le seul fait qu'un homme se soit levé au sein de son parti pour s'opposer à Netanyahou marque un tournant. Il y aura un avant et un après. Bibi, comme ses supporters le surnomment, dirige le Likoud non-stop depuis 14 ans et même depuis 25 ans si on remonte à son premier leadership. Aujourd'hui, il est âgé de 70 ans. Il est enfin contesté. Gideon Saar, il est de 17 ans son cadet, ancien ministre de l'Éducation et de la Sécurité. Il est sans doute plus à droite d'ailleurs que Netanyahou. Il incarne surtout la génération suivante et c'est un homme de Tel Aviv, loin donc de Jérusalem, la religieuse. Peu lui importe de perdre demain et d'être qualifié de traître par les fidèles du Premier ministre. Gideon Saar veut en fait poser un jalon pour la suite, pour l'après Netanyahou. Et il n'est pas le seul. Il y en a d'autres au sein du Likoud qui attendent leur heure. On peut en citer 3. Yuli Edelstein, l'actuel speaker du Parlement, il s'est gardé de prendre position d'ailleurs dans la primaire. Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, qui est très populaire chez les électeurs. Gilad Erdan, ministre de la Sécurité intérieure, qui a fini hier par soutenir Netanyahou et du bout des lèvres, il entretient de mauvaises relations en fait avec lui. Tous ces hommes fourbissent leurs armes pour tuer symboliquement le père à terme. Le tabou n'est plus. Netanyahou peut être attaqué.
Et puis, il lui suffit pas en plus de remporter la primaire.
Alors exactement, remporter la primaire du Likoud, c'est en fait le plus facile, le plus dur est à venir. D'abord, il y a le calendrier judiciaire. Rappelons que Netanyahou fait l'objet d'une triple inculpation pour corruption, fraude, abus de confiance. La Cour suprême doit encore se prononcer sur le fait de savoir si cette situation est compatible avec son maintien au poste de Premier ministre et la formation d'une coalition. Et puis, il y a le calendrier politique stricto sensu. Début mars, donc on le disait, les Israéliens iront aux urnes pour la 3e fois en un an. Rien n'indique que Netanyahou soit capable davantage que les 2 fois précédentes de décrocher une majorité. et il lui en faudrait une, si possible de taille, pour sauvegarder son immunité parlementaire face aux poursuites judiciaires. Donc retour à la case départ, s'il ne remporte pas les élections, il sera à nouveau sous la menace d'une contestation interne dans son parti. Les jours de Netanyahou semblent donc bien comptés, sauf à ce que la majorité de l'électorat israélien finisse par succomber à son discours populiste, ce discours qui remet en cause l'état de droit, qui assimile désormais l'intérêt d'Israël à son intérêt personnel. Ça reste possible, mais ça n'est pas le plus probable. C'est pour ça que même avec une victoire demain, Netanyahou restera sur un siège éjectable.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, merci beaucoup. Jean-Marc, vous revenez demain. La suite, ici c'est le journal présenté par Hélène Filly. Et puis juste après, il y aura le téléphone sonne. Vous allez voir, on ne parlera de rien. Et c'est toujours un concept de ne parler de rien, mais appelez-nous quand même pour nous parler de rien. Tiens, et j'en profite, le 18-20 de Noël, c'est Fabrice Lègle, c'est Mathilde Terrier, c'était Emma Ferré. Merci à elle sur France Inter. Il est 19h.